Salut à tous, c'est Romaric. Cette semaine dans Graffiti Cinéma, on vous propose pour nos trois dernières émissions de la saison, en 3 heures, notre grande session d'enregistrement qui a conclu cette saison, cette 8e saison, enregistrée au festival Génération Multivers. Vous allez découvrir des interviews, de la pop culture, énormément d'invités, des pauses musicales et des thèmes liés à la pop culture avec tous les intervenants qui sont venus sur notre stand pendant cet après-midi magnifique qu'on a pu enregistrer il y a une quinzaine de jours. Pop culture, bonne humeur, bonne ambiance, tout est estival finalement un petit peu dans ce titre-là. N'hésitez pas à nous laisser vos réactions, vos propositions sur le Facebook de l'émission Graffiti Cinéma. Nous c'est parti, juste après un petit jingle, on embarque pour une émission dans les conditions du direct. On est en train de parler de costumes dans le multivers, l'espace Pierre Lançon à Saint-Nirval pour le festival Génération Multivers. Alors des univers, on en a vu beaucoup. On a parlé de Marvel, on a parlé de Star Wars, on a parlé maintenant des ennemis. On va parler de Star Trek. Alors c'est comme ça, hein, c'est comme Lego Playmobil, le noir et le blanc. Star Trek, voilà, évidemment. On est très heureux de recevoir Jean-Philippe. Merci beaucoup d'être avec nous. On continue à parler de costumes et de cosplay. Et Nico, vraiment, c'est important parce qu'on peut le dire, t'es un des fans de Star Trek de la bande avec nous. Enfin, c'est pas qu'on aime pas, hein, nous on adore. Hein, mais on peut faire aussi une petite dédicace à Mathieu qui souvent nous rappelle que Star Trek est bien plus profond que tous les autres univers de pop culture. Et on est très heureux d'en parler en votre compagnie. Alors on va déjà présenter une association, Nicolas.
Oui, bah non, plutôt Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous présenter l'association du coup Star Trek France du coup?
Oui, bah bonjour, merci de m'avoir invité. Oui, je suis Jean-Philippe, le président du Star Trek French Club,
okay.
Qui est une des associations françaises qui a été fondée en 2016, donc dans le bassin lyonnais à l'époque. Bon, après, ça s'est développé au niveau national. Mm-hmm. Moi, j'ai adhéré à l'association en 2018. Et donc après, j'ai commencé simple adhérent. Et puis là, je suis président depuis le début de l'année.
Voilà. En quoi consiste l'activité principale de l'association? En quoi consiste-t-elle?
En fait, donc déjà là-bas, c'est un regroupement de plusieurs fans. Donc on se réunit lors de conventions ou d'événements. Donc voilà, on expose une partie de notre collection personnelle. Après, on organise aussi des rencontres locales. Voilà, on se réunit entre nous pour faire des sorties ou comment regarder des épisodes, des films entre nous, quoi.
Et c'est vrai que c'est intéressant parce que Star Trek, est-ce qu'on a besoin de le présenter, cet univers-là? On se demande, hein, parfois.
En France, on a quand même besoin de le présenter.
Le fait en deux phrases, là?
Comment on peut le faire en deux phrases.
DB aussi, comment on présente Star Trek?
Star Trek, c'est une des plus grandes sagas de science-fiction avec Doctor Who, bien sûr, qui à peu près niveau timing, on est à peu près pareil. Et puis même au niveau de la culture pop, Star Trek, c'est quand même, on part surtout côté États-Unis, c'est quand même devenu une grande religion. À savoir que, à noter que les conventions ou même les cosplays, les premiers cosplays qu'il y a eu, les premières conventions de fans avec des fans cosplayés, c'était pour Star Trek.
Oui.
Ça date des années 70, c'était aux États-Unis, c'était la toute première fois qu'il y avait une convention avec des gens en cosplay et c'était pour Star Trek.
Ouais. D'ailleurs, c'est important de le dire, la série elle a duré 3 ans, la série originale, et c'est vraiment les fans qui ont fait perdurer l'univers de Star Trek au travers des conventions dans les années 60.
C'est ça, parce qu'en fait, au début, déjà Star Trek, c'est assez particulier le lancement. Il y a eu un épisode pilote, qui a pas marché du tout. Les producteurs, ils ont dit non, on n'en veut pas, voilà. Et ils ont eu la chance de pouvoir faire un deuxième pilote.
En changeant le casting, une partie du casting.
Voilà. Parce qu'ils voyaient, ils voulaient pas. Déjà, ils voulaient plus Spock.
Oui.
Mais alors, par contre, Gene Roddenberry dit non, on le garde.
Alors, Gene Roddenberry, c'est le créateur de Star Trek.
C'est ça.
Qui est le créateur de Star Trek, de la série, de l'univers, mon Dieu.
Le George Lucas de Star Trek.
Exactement. C'est le George Lucas de Star Trek, quoi.
Exactement.
Je l'ai fait une seconde avant.
C'est dégueulasse. Ils ont changé de capitaine et du coup, c'est devenu.
À la base, c'était le capitaine Pike, qu'on retrouve aujourd'hui dans Star Trek Strange New World. Et puis qu'on a retrouvé aussi dans les films de la Kelvin Timeline.
Qui sont les films de J.J. Abrams.
Ça, c'est les films de J.J. Abrams. Donc, on verra peut-être plus tard sur pourquoi la Kelvin Timeline. Et donc, voilà. Donc, là, ils ont recréé avec un nouvel équipage. Et donc, il y a eu 2 saisons. Après, ils ont dit qu'ils arrêtaient, mais bon, il y a eu un gros mailing auprès des fans. Ils ont envoyé un courrier, ils ont vraiment limite harcelé au niveau courrier auprès de CBS, Paramount. Oui. Et bon, ils ont renouvelé pour une troisième saison. Après, ils ont arrêté là. Mais le gros boom de Star Trek, c'était dans les années 70. Quand il y a eu des diffusions, des rediffusions sur plusieurs canaux privés. Et c'est là que en fait, Star Trek a vraiment pris son essor. Il y a eu les conventions derrière, tout ça.
Alors, il y a des nouvelles séries. Hein. On en parlait tout à l'heure de transmission avec Yves-Marie qui est venu pour Ghostbusters. Là, il y a les nouvelles séries qui ont été financées. Star Trek New Horizons, il y a eu Star Trek Discovery. Est-ce que ces portes d'entrée-là, pour quelqu'un qui a connu les séries d'origine, peuvent fonctionner pour des gens qui découvrent les univers Star Trek aujourd'hui ?
Ah bah justement, on a aujourd'hui beaucoup, quand on voit dans les conventions, on a beaucoup de personnes, même des jeunes, qui découvrent Star Trek, qui nous reconnaissent. Parce qu'ils ont découvert Star Trek via les trois films de J.J. Abrams.
En effet, ouais.
Ou alors via Discovery. Parce que bon, faut dire ce qui est, quand Discovery est arrivé, donc c'était sur Netflix à l'époque, il y a eu tout un panel de communication dessus. Donc c'est vrai que ça, par curiosité, les gens qui avaient Netflix ont commencé à regarder, beaucoup ont accroché derrière. Là, on commence aussi à avoir beaucoup de personnes qui reconnaissent Star Trek. Quand il y a eu la sortie de la diffusion de Paramount Plus,
oui.
Quand est arrivé en France,
oui, en effet, ouais.
Niveau bombardement médiatique, c'était voilà, c'est la folie.
Alors on a des catcheurs derrière. Star Trek, c'est souvent un peu plus calme. Est-ce qu'il y a des catcheurs dans Star Trek? Non, il me semble pas.
The Rock a fait une apparition dans.
Et c'est pas vrai.
Et certains combats de Jim Kirk dans les premières saisons sont dignes du catch. Hein,
voilà, le Kirk fou, comme on a.
clairement.
Voilà, c'est. Il y a même un livre qui est sorti, Le Kirk fou, avec les diverses.
Les diverses prises et attaques du commandant Kirk.
Voilà, c'est devenu un art martial en soi, le Kirk fou.
On les entend, ils sont en train vraiment de se sauter dessus. Hein. C'est des catcheurs, ils sont fans. Et on voit à quel point les passions poussent à nous faire des choses complètement incroyables. Parce que là, on peut le décrire à nos auditeurs. Donc les catcheurs se sautent dessus. Deux gars en slip, ce qui arrive souvent dans l'univers du catch d'être en slip devant des gens. Et se sauter dessus les uns avec les autres. C'est plutôt cool à regarder. Ils sont juste derrière nous. On en parle.
Pour le coup, vu la chaleur qu'il fait, on les envie un petit peu quand même.
Mais je vais y aller. Franchement, je vais y aller. J'ai un très très beau slip à montrer à tout le monde. Donc voilà. Écoutez, c'est parti, à l'année prochaine. Alors justement, parler de costume, après mon slip, la transition n'est pas facile. Justement, Jean-Philippe, comment tu choisis un personnage pour concevoir un cosplay? Parce que c'est vrai qu'on peut le dire, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais tu es en Capitaine Kirk là?
Pas vraiment. En fait, nous, sur notre assaut, on n'a pas vraiment ni le physique, ni la ressemblance physique avec des personnages de la série. Donc nous, en fait, on base principalement nos cosplays sur... Star Trek, à la base, c'est des uniformes.
Oui.
Donc voilà, donc on base nos cosplays sur un uniforme d'une époque. Donc moi, justement, c'est l'époque, donc dans le 23e siècle. Donc voilà, c'était donc l'uniforme doré qui représente la chaîne de commandement du 23e siècle.
Ah oui, voilà. Non,
donc voilà, on reste basé, puis pareil, voilà, avec pantalon un peu, voilà, patte d'éléphant, tout ça, qui représente bien les 70, tout ça, quoi.
C'est ce côté-là, on parlait de transmission avec Ghostbusters, justement, le costume des années 80, qu'il fallait réactualiser parce qu'il y a de nouveaux films.
C'est ça.
Là, Star Trek, le look des années 70, on le transporte, en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, les années 70, oui, c'est ça.
Donc quand on adhère à cette série, je dirais, est-ce qu'on adhère aussi à l'époque de diffusion?
Il y a un charme aussi, oui, c'est vrai que pour quelqu'un aujourd'hui qui va regarder la série originale, c'est sûr que ça fait kitsch, c'est kitsch, mais c'est un charme justement qu'on retrouve plus aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, c'est tellement vraiment les effets spéciaux faits par ordinateur de bonne ou de mauvaise qualité, maintenant c'est vrai que c'est un peu... Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas d'effets par ordinateur, c'était tout est filmé, comme dans les tout premiers Star Wars, hein, par exemple, hein. C'est que de la maquette, c'est que... voilà. Donc c'est ce qui fait que même si on a le petit côté un peu carton-pâte, ça vieillit moins bien parce que bon, on a quand même les matte painting, on a tout ça, donc c'est vrai que ça vieillit un peu, mais ça garde un charme qui est toujours présent, quoi. Puis ça...
Est-ce que tu as une préférence pour une période par rapport à toutes ces périodes de Star Trek dont on parlait avec tous ces costumes? Est-ce qu'il y a une préférence où toi, en tant que fan, en tant que cosplayer, c'est plus facile pour toi de t'investir la période de Kirk, la période de Picard, la période de... Est-ce qu'il y a comme ça
En fait, moi j'ai un costume pour être de toutes les périodes.
Ah, t'as carrément des costumes par période.
Voilà. Il triche.
Non, mais bon, c'est, j'aime bien, c'est ma passion, ouais. Donc c'est vrai que... Après, c'est sûr que comme préférence, moi je mets beaucoup la série originale, parce que bon, c'est une de mes... Oui. C'est une de mes séries cœur, parce que c'est via l'équipage original que je suis rentré dans l'univers Star Trek. Donc pour moi, voilà, c'était... C'est ma période de cœur, donc c'est pour ça que voilà. Après, il y a des costumes un peu plus complexes, comme les dernières séries, où c'est vraiment chercher le petit détail. Ouais. Comme là, justement, là, dans la toute dernière série, Strange New World, faire le costume, c'est assez compliqué, parce qu'ils ont... Sur le haut, il y a les petits écussons Starfleet qui parcourent tout le long de la manche. C'est vraiment imprimé dans le tissu. Beaucoup plus compliqué après de pouvoir faire le cosplay à ce niveau-là. Quoi.
Et c'est vrai que Star Trek, moi, ce qui m'a marqué, c'est souvent quand on entend parler des grands fans, c'est qu'ils parlent des saisons comme d'équipages. Et c'est vrai que c'est génial, parce qu'on peut rappeler la traduction, sans faire le prof d'anglais, que Star Trek, c'est le voyage. Hein,
c'est
Star
Trek, on voyage.
À différence de Star Wars, on est censé se faire la guerre. Et c'est vrai que c'est ce côté épopée de découverte, d'aller vers l'autre, et une énergie assez différente, hein, finalement, que des autres univers de pop culture qu'on peut connaître.
Tout à fait, parce que c'est vrai que oui, Star Trek, comme tu dis, donc c'est avant tout la découverte. Donc de toute façon, chaque épisode, c'était la découverte de nouveaux mondes, enfin, de mondes étranges, comme il dit dans le début, découverte de mondes étranges, de nouvelles civilisations. C'est ce qui fait même l'essence de l'univers Star Trek. C'est ce qu'on retrouve dans la série originale. C'est ce qu'on a retrouvé après dans La Nouvelle Génération. C'est ce qu'on a retrouvé dans Voyager. C'est ce qu'on a retrouvé après aussi quand ils ont fait le reboot, enfin Enterprise. Qui était vraiment, en plus, pour moi, une des très bonnes séries, parce que c'était carrément la création même de Starfleet. Donc c'est vraiment la première fois que l'humain sortait du système solaire et allait au-delà du système solaire pour découvrir le monde, et qui s'apercevait qu'en fait, dans l'espace, tout n'est pas tout beau tout rose. On peut faire des bonnes découvertes comme des mauvaises. En gros, si on pouvait comparer avec une autre série assez bien connue, on peut comparer avec Stargate.
Oui.
Stargate, chaque épisode, il découvre une nouvelle planète via la porte des étoiles. En fait, c'est vraiment Star Trek, c'est ça, quoi.
C'est aussi un hymne à la tolérance. Voilà, il y a tout plein de notions, de concepts des années 60, aussi bien au niveau du racisme, sexisme, qui sont abordés dans la série et qui aujourd'hui nous paraissent complètement des portes enfoncées. Mais à l'époque, il faut rappeler que Star Trek, elle est complètement innovante.
C'est toujours d'actualité, hein, même les thèmes dans les années 60. Le racisme, qu'on le veuille ou non, on l'a encore aujourd'hui.
Tolérance, enfin voilà, vraiment l'hymne de Gene Roddenberry. Il a vraiment voulu faire passer ces messages-là dans cette série. On peut rappeler le premier baiser entre Uhura et Kirk, donc une actrice black qui embrasse donc le capitaine Kirk. C'était le premier baiser interracial
dans les années 60. Dans les années 60.
Et même, il y a même une anecdote justement sur ça, c'est qu'en fait, à la base, les producteurs voulaient pas cette scène-là, et ils ont fait plusieurs. Cette fois, ils ont fait la scène où ils s'embrassaient. Et après, ils devaient faire non, vous embrassez pas, vous faites juste un smack vite fait, quoi. Mais voilà. Mais ils faisaient exprès de le rater. Donc à la fin, ils ont dit bon, écoute, on n'a plus le temps, tant pis, on envoie comme ça. Et c'est devenu, ouais. Par contre, c'était le tollé, quoi. C'est,
bien sûr.
Les conservateurs américains, beaucoup ont fait des crises cardiaques direct. Hein.
Mais Star Trek est associé à ce grand progrès dans l'univers audiovisuel et la culture internationale. Jean-Philippe, on va te libérer. Je sais pas, Nicolas, si tu avais une dernière question pour notre ami, puisque c'est toi qui nous saoule avec Star Trek.
Ouais, je sais, je suis désolé. Est-ce que tu peux nous citer deux, trois... Moi, je suis toujours surpris dans Star Trek, c'est l'extrême précision du merchandising. Est-ce que tu peux nous... Enfin, est-ce qu'il y a deux, trois exemples comme ça de merchandising complètement dingue? Moi, j'en ai qui me viennent en tête, que tu as pu voir passer dans les échoppes. Moi, je me rappelle toujours de ce guide de cuisine, de la cuisine de Star Trek.
Enfin,
moi,
oui, voilà, le guide de Neelix. Le guide de Neelix... Qu'on retrouve Neelix, qui est en fait le entre guillemets le cuistot conseiller dans Star Trek Voyager. Il y a eu aussi dans les années 70, quand c'était vraiment la grande période pour Star Trek, il y a eu pas mal de jouets Star Trek. En fait, ça n'avait rien à voir avec la franchise. C'était des trucs qui étaient un peu futuristes. On met Star Trek dessus et ça passe. Le truc le plus drôle, c'était le fameux casque avec marqué Spock dessus, le casque avec un gyrophare sur la tête.
Alors qu'on n'en voit jamais dans la série.
Voilà, et en plus, le plus drôle, c'est que dans la série Star Trek Lower Decks, ils le font apparaître dedans. Donc en fait, l'accessoire est devenu canon.
C'est fantastique.
Le truc qui n'a rien
la
à
boucle,
voir,
bouclé.
Mais il est devenu canon maintenant.
C'est fameux, ce fameux canon qui est propre à chaque univers.
C'est
qui
ça.
Est le, ce qu'on voit à l'écran fait partie de l'univers, donc on peut l'écrire,
tout à fait,
l'imaginer,
voilà.
Et l'intégrer à,
façon,
à tout notre imaginaire.
De toute façon, sur Star Trek, c'est pas compliqué. Ce qu'on voit à l'écran, c'est canon. Le reste, c'est ne concerne pas. Voilà,
rien à voir avec les canons de la guerre, évidemment. Hein. On parle vraiment de ce qui fait la loi, ce
voilà,
qui fait les références.
La règle.
La règle.
C'est
la
ça.
Règle. Voilà, la règle. On est là pour respecter les règles.
Voilà.
Alors, un grand merci en
merci
tout cas
à
Philippe d'être venu autour de la table parce que c'est vrai qu'on en parlait. Le cosplay Star Trek, c'était quand même inconcevable de parler de cosplay sans parler de cet univers-là voilà. Qui est vraiment fondamental et qui a lui-même été à l'origine de tous ces univers de pop culture qu'on connaît aujourd'hui.
C'est ça.
Voilà. Un très très grand merci en tout cas d'avoir été avec nous.
Bah, merci à vous.
Voilà, et puis bah, au plaisir en tout cas de découvrir ce stand. On rappelle hein, donc Pierre Espace, Pierre Lançon, vous êtes à Saint-Denis-en-Val. Vous découvrez dès la première salle hein, le stand de Jean-Philippe autour de Star Trek. Et voilà, on vous souhaite vraiment de découvrir cet univers là également en complément. Nous on va écouter un son avec Black Panther qui fait un costume à l'épreuve des balles. Et après on va se retrouver dans cette salle juste après avec un nouveau thème.
Système de téléconduite activé.
Attends, on roule de quel côté en Corée?
Pour l'amour de base, démarre!
C'est bon, laisse-moi le temps! Ah oh, j'adore! Hé, hey, t'as vu ton costume? Il est en train d'accumuler l'énergie cinétique des balles que tu reçois!
Dépasse le camion!
Mais il est passé où?
Quel frimeur!
Et on est revenu directement dans le gymnase. On va faire une photo avec nos invités, on va enchaîner avec un autre thème. Et c'est vrai qu'on va continuer à parler de pop culture évidemment. Moi ce que je vous propose c'est une pause musicale tout simplement. Parce qu'on a parlé tellement, on est épuisant. Puis on est épuisé également avec les 4 heures derrière. Alors les amis on va passer justement à une pause musicale importante qui va nous amener vers un autre thème de pop culture. On va passer au thème 10, on va parler des anneaux de pouvoir et du Seigneur des Anneaux, un autre univers incontournable de la pop culture. Et ces morceaux est tout simplement la chanson des anneaux de pouvoir. Il est intitulé Cette longue journée. On se retrouve juste après à Saint-Denis-en-Val pour continuer à parler de pop culture. Évidemment, alors c'est important, vous voyez qu'on a parlé de Star Trek, de Star Wars, on a parlé du Seigneur des Anneaux et on a parlé également de tous ces univers connectés parfois. Tout ce qu'on y retrouve, c'est de la passion. Et on vous rappelle également, donc là on est samedi, vous nous écoutez en direct sur Vague FM. Demain, vous avez encore une tranche de direct avec Vague FM de 9h à 12h le matin. Et on continuera, j'espère, à vous croiser, à vous voir sur ce festival-là qui accueille de plus en plus de monde pour sa deuxième édition. On vous retrouve juste après une pause musicale avec d'autres furieux, d'autres passionnés. A tout de suite.
Là-bas, au lointain, la tour illuminée n'est plus ma maison. Je couche désormais sur du sable noir. Je quitte mon passé pour une autre histoire. Appelle-moi, appelle-moi, terre éloignée. Je dois commencer cette longue journée. Il me faut commencer cette longue journée. J'ai la gorge sèche, le ventre affamé. Mes forces s'épuisent, mais je dois continuer. Mes pieds sont fatigués, le voyage est long. Rien pour me consoler, à part cette chanson. Chante pour moi, terre éloignée. Voudrais-tu me guider en cette journée? Et du froid, tout ceux qui se cherchent ne se perdent pas. Qu'importe le chagrin, la peur ou l'effroi, tous ceux qui se cherchent ne se perdent pas.
C'est très beau comme chanson, hein. J'ai enregistré ça dans mon garage il y a quelques semaines, je suis complètement essoufflé. Parce qu'on court après les invités, en fait, figurez-vous que il y en a derrière. Ça en général, c'est coupé au montage, ce genre de truc. J'ai mangé des cacahuètes avant et c'est en train de me faire tousser. Et ce morceau, c'est un extrait de cette bande-son d'une série incroyable qui est Les Anneaux de Pouvoir. Alors, on va pas seulement parler de cette série-là, parce qu'on voulait quand même, en touchant aux univers, aux différents univers de la pop culture, la toucher directement Star Trek et arriver au Seigneur des Anneaux, qui était évidemment incontournable. Et c'est pas seulement cette série-là, évidemment, qui est le gros projet d'Amazon qui a mis énormément d'argent et des centaines de millions de dollars sur la table. Mais c'est tout simplement déjà se poser une première question avant que notre invité arrive. C'est directement, tout simplement se dire qu'est-ce qui peut être encore raconté dans le domaine du Seigneur des Anneaux. Alors, le Seigneur des Anneaux, c'est cette grande saga, cette immense saga qui est basée sur l'univers de Tolkien. Et ces romans évidemment incontournables, si vous les avez lus, qui ont été traduits, retraduits et plusieurs fois. C'est également le petit-fils de Tolkien qui a récupéré les droits et qui récupère cet univers-là. Et qui nous permet aujourd'hui de continuer à développer cet univers, notamment avec les fameuses anecdotes, les séries, les petits passages qui avaient été à moitié écrits par Tolkien et qui permettent aujourd'hui à cet univers de pop culture, paradoxalement, d'avoir un avenir. Et c'est ça qui est hyper intéressant aujourd'hui, Thomas, c'est de trouver l'avenir, justement, du Seigneur des Anneaux via ce qu'a fait Amazon avec les Anneaux de Pouvoir. Alors, on va pas le spoiler, hein, parce qu'autour de la table, beaucoup ne l'ont pas vu. On va en parler avec notre invité qui est en train d'arriver, qui est lui-même un spécialiste de Seigneur des Anneaux et de pop culture. Thomas, en quelques mots, les Anneaux de Pouvoir, c'est un budget, en tout cas, je dirais, un projet très ambitieux.
Ah, c'est un projet incroyable, hein. Là, on sent que, bon, évidemment, Amazon, ils ont dépensé énormément d'argent pour acquérir cette licence et ils se doivent de rendre quelque chose de super élégant. Il faut qu'ils se hissent à la hauteur du film. Il faut, hein, je vois Nicolas qui me regarde, il faut que Amazon se hisse à la hauteur des films.
Oui, il faut qu'il soit à la hauteur du film.
Clairement, il faut que visuellement, ça se voit. Ce soit ça. Et on peut dire que, pour moi, la série, là, c'est une réussite sur ce point-là. La musique est formidable. Tout ce qui est visuel est
léché, c'est
incroyable. Réellement incroyable. La série, pour moi, c'est comme les livres, c'est un page-turner. C'est-à-dire qu'on lit la fin de on lit une page, on a envie de tourner l'autre page. Et là, c'est pareil. Chaque épisode, j'ai trouvé ça vraiment. J'attendais la semaine d'après ou les deux semaines d'après pour continuer. Alors, évidemment, je sais que les fans réellement hardcore ont pu se dire il y a des choses qui vont pas.
Il
y a des choses qui vont pas, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire que tout aille bien fais une adaptation?
Non, mais c'est pas nécessairement que tout aille bien ou pas bien, mais je trouve que moi, cette série, elle ne raconte rien. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'elle est très jolie.
Ah ouais, non, mais
elle est belle. C'est des blockbusters chaque semaine, effectivement. C'est très sympa parce que du coup, on a un blockbuster à plusieurs millions de dollars. Ça pète de partout. C'est formidable. Mais c'est pas ça, Tolkien. C'est pas ça qu'on attend. Tolkien, on attend du fond, on attend une histoire. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que
on veut Gandalf, quoi.
Non, mais. Alors, on va clairement, pas spoiler, on va pas commencer, il me lance là-dessus, mais c'est un univers qui est d'une richesse, mais incroyable. Je veux dire, il y avait des sagas formidables au Silmarion, il y a vraiment des trucs et des trucs à raconter, et il ne nous raconte rien, quoi.
Alors, on va continuer à en parler, parce que c'est vrai que là, on découvre, un nouvel univers, on va continuer à en parler avec notre nouvel invité qui vient d'arriver autour de la table, Gaël Pelletier, enchanté.
De même, bonjour à tous.
Alors, les Orléanais te connaissent très bien, puisque tu es le gérant du Miskatonic Shop à Orléans, qui est un magasin qui est devenu culte pour tous les fans de pop culture et d'univers connectés sur Orléans.
Merci.
C'est alors, vrai. Culte, bon, je suis allé trop loin, culte. Non, évidemment que c'est culte, évidemment.
Non, mais c'est bien, continue, il n'y a pas de souci.
Bon, attends, je vais continuer, qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Alors, on parlait évidemment du Seigneur des Anneaux et on t'avait proposé de venir sur ce thème-là parce que c'est vrai que on l'a vu, on l'a accompagné sur Orléans. Et d'ailleurs, à tous ceux qui nous écoutent, même pas forcément d'Orléans, si vous venez à Orléans, bah, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une matière, en tout cas, à prolonger ces univers-là. Et en particulier pour le Seigneur des Anneaux, avec les Anneaux de Pouvoir, il y a des rayons entiers dans un magasin comme le Mystica de littérature de fantasy qui ont infusé avec Tolkien.
Ah bah, aussi bien romans que même dérivés, alors autres, les traditionnels dérivés, figurines, tout ça. Mais je pense par exemple aux différents jeux de rôle, jeux de société. Accessoires, enfin voilà, au niveau culturel, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Je n'ai pas encore vu de manga ou de comics dessus en France, mais qui sait, hein, on pourrait peut-être venir.
Sur le Seigneur des Anneaux ?
Oui, ouais. Tiens, bonne question.
Il y a juste eu un comics qui a adapté le Hobbit.
Oui, mais il date de.
Oh bah, il a au moins 30 ans.
Oui, voilà, c'est pour ça. Presque inconnu maintenant, on va dire, pour le grand public. Après, d'un point de vue, moi, on va dire revendeur de produits culturels.
Revendeur, il y a un petit côté drogue, ça. J'aime beaucoup ça.
La fantasy est légale.
C'est légal.
J'ai du Martins, j'ai du Tolkien, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, nous, en tant que commerçants, on surveille beaucoup de tout ce qui est plateforme de streaming par rapport à que ça soit Witcher, Game of Thrones, enfin toutes les choses comme ça. Et en le voyant arriver, on s'est dit, ouais, c'est super beau, c'est une licence. Mais on était déjà un petit peu refroidi par rapport à la trilogie du Hobbit. C'est-à-dire que le Seigneur des Anneaux, quand il est sorti au film, ça a été un carton. Tout le monde, après, ne jurait que par Tolkien, alors que 2-3 ans avant, personne connaissait Tolkien.
C'est ça.
Je sais que j'ai des parents qui ont pourtant une formation littéraire. Tu leur parles de Tolkien, ils font des titres qui. Je dis, bah merde. C'est quand même. Mais le Hobbit a calmé les ardeurs, j'ai envie de dire, des fans. Alors, pas des fans hardcore, mais des fans qui aiment bien avoir son petit goodies, des choses comme ça. Le Hobbit a vraiment calmé l'hype, si je puis dire. Donc on a vu le truc arriver d'Amazon, on a fait ouais, c'est joli, c'est ok. Clairement on a vu une hype de House of the Dragon par rapport au Seigneur des Anneaux. Si moi j'avais un reproche à faire à la série, outre le fait que les nains soient des nains de Warhammer mais pas des nains de Seigneur des Anneaux, je sais plus quel youtubeur disait le nain balourd, c'est tellement ça. En fait, il est beau, on voit plein de choses, mais on a l'impression qu'il survole plein de thématiques, plein de personnages, sans vraiment se concentrer sur une histoire. On va voir un tel. Ouais, d'accord. On va voir un tel. On n'a pas fini avec le premier. Ah, bah, il y a lui aussi. Bah, il sort d'où, lui on revient sur lui. Ah oui, je l'avais oublié. Ok, d'accord. À tel point qu'il y a des fois, quand tu regardes les épisodes, tu fais, ah, super, on avance sur lui. Et maintenant, on va parler de lui. Ah non, mais je m'en fous. Reviens sur l'autre.
Il y a un cahier des charges. Ouais. On a l'impression qu'il coche comme ça toute une liste de trucs. Bon, bah, alors, attends, faut voir un peu de l'elfe, faut voir un peu du...
L'elfe, c'est bon, cette fois-ci. Ouais. Le nain, c'est bon, ok. Ouais. Il faut mettre du méchant. Donc... ça se perd en fait, ça se perd. C'est mon plus gros reproche que j'ai à faire cette série, qui est très jolie. Moi, il y a un autre truc, mais ça c'est personnel, hein. C'est celui qui joue, ça y est, je perds mon latin, l'elfe,
Elrond,
Arnoldil.
Elrond.
Il est derrière, ça fait
Rondulf.
Elrond, pour moi, c'est Neil Patrick. L'acteur. Je trouvais qu'il avait un faux air de Neil Patrick, mais en plus jeune. Et en fait, je n'arrivais pas à voir autre chose que Barney Stinson de How I Met Your Mother en elfe. Ça me sentait
embêtant. Du coup, quand tu vois cet elfe, tu vois Dr. Doogie, toi.
Ouais. Complètement. D'accord. Avec des oreilles pointues.
Je pensais pas qu'on arriverait à Dr. Doogie aussi vite. Alors, c'est vrai qu'on parle de vente, de fantasy. On parle vraiment de la fantasy, mais évidemment, il y a plein d'univers dans le magasin de Mystica, donc sur Orléans, donc voisin rue de Bourgogne. On peut rappeler l'adresse hein, d'ailleurs.
13 rue des Trois Clés.
Voilà, 13 rue des Trois Clés, qui est une rue magique sur Orléans, parce qu'il y a plein de magasins super cool et des exposants qui sont là.
Il y a notre ami Merlin qu'on a vu tout à l'heure qui est là-bas.
Il y a Merlin l'Enchanteur qui expose ici, qui est trois rues.
Oui.
Trois clés. Donc c'est vraiment une rue de farfadets sur Orléans, voisin du quartier Bourgogne.
On sort pas indemne.
Exactement, et pour la bonne cause. Alors on parle de fantasy ici et on parle de cet impact-là. Et justement, parler des personnages un peu clichés de cet univers de la fantasy.
Oui.
Comment toi, avec ton expérience, tu as vu cet univers-là évoluer? Parce que c'est vrai qu'au début, c'est très chapelle. Hein, et on voit évoluer avec les grands films, les grandes séries de Peter Jackson. Ça s'est démocratisé à une vitesse folle.
Alors le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, la trilogie, c'était le jour et la nuit. C'est-à-dire que ça a permis donc effectivement de démocratiser énormément le style de la fantasy. On a eu plein de films plus ou moins bons. Hein. je ne citerai pas des films de Uwe Boll dont j'ai oublié le nom.
Moi je défends totalement Uwe Boll.
Oh merde.
Donc, c'est une émission qui là, aime Uwe Boll. Voilà.
quand il faut avoir des combats, moi je les mène. Voilà. Et ben ce combat, c'est Uwe Boll. Alors pas en vrai, hein, pas avec Uwe Boll en vrai, parce que
oui, lui c'est un boxeur. Hein.
C'est un boxeur, donc du coup je.
Tu défends donc les ninjas en pleine forêt qui. D'accord.
Pourquoi
non mais je juge pas. Je. Enfin, pas ouvertement.
Il y a des forêts très mal fréquentées.
C'est ça le multivers aussi.
Ah mais oui, mais la oui. Bien sûr. Vu comme ça effectivement.
Mais c'est vrai à quel point on voit que si un auteur comme Uwe Boll arrive à se dire je vais faire de la fantasy, c'est qu'il y a eu cette influence folle. C'est qu'aujourd'hui fantasy, on parle sous ton contrôle, c'est quasiment un univers de la pop culture qui est un des plus dominants, un des plus écrasants quasiment.
Oui, et puis il y a eu faut pas oublier que, alors là on va faire un petit grand écart parce qu'on parle souvent que c'est une saga de science-fiction, mais beaucoup disent que c'est aussi beaucoup d'heroic fantasy. C'est Star Wars. Star Wars, c'est de la fantasy dans l'espace, si on regarde bien. Star Trek, c'est vraiment de la hard SF. Ça, par contre, le Star Wars, les Jedi, c'est des chevaliers. On appelle ça des chevaliers. Enfin, il y a toute une
des princesses,
des codes. Voilà, il y a un code d'heroic fantasy monstrueux. Après, il y a eu des choses qui ont été faites avant, surtout dans les années 80, grâce à Conan, dont je suis un grand fan d'Howard. Il y a eu donc The Witcher qui a explosé grâce au jeu vidéo et la série Netflix par la suite. Après, on aime, pas, mais j'aime beaucoup The Witcher.
Nous, on aime.
Mais moi, j'aime beaucoup, mais parce que c'est très inspiré d'une saga qui n'a pas encore été adaptée à l'écran et dont je suis un grand fan.
Ah bah, tu peux en parler, un grand plaisir. Hein.
La saga d'Elric de Morcook, ça, c'est. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà, c'est
un grand monument, mais ce serait très compliqué.
J'allais dire, c'est inadaptable. Enfin, c'est... Parce que soit on met soit ça kitschouille au niveau des mondes des rêves, des choses comme ça, soit on part sur quelque chose d'incompréhensible. Mais à la base de Elric, c'est vraiment l'anti-Conan, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est faible, très romantique, mais qui a inspiré énormément d'œuvres de fantasy et de pop culture. Je veux dire. Même Final Fantasy VII, Sephiroth, c'est Elric. Geralt de Rive, on l'appelle le loup blanc. Bah, le premier loup blanc, c'est Elric. D'ailleurs, on retrouve la conjonction des sphères dans les deux sagas. Enfin, c'est quelque chose d'énorme, mais par contre, à adapter, ouais, bon courage.
Et quand tu vois arriver dans ton échoppe.
Oh, c'est joli.
C'est beau, hein. C'est quand tu vois arriver dans ton échoppe des fans de la première heure, et comment le public il se distingue. Est-ce que ça se coupe en deux ou pas? Est-ce que les vieux de la vieille n'osent plus venir en se disant un peu on m'a volé mon
Tolkien.
On m'a volé ma passion, on m'a volé mon Tolkien, et tout ce qui se fait après est forcément moins bon, alors que bon, si on y regardait avec un petit peu plus de recul et de bienveillance dans tout ça, on peut se dire que effectivement tout ce que tu as dit sur la série, on peut l'entendre. Mais je pourrais très bien aller dans l'autre sens et être un ultra fan de ça. Alors, comment est-ce que tu vois? Comment le public il a évolué?
Alors,
vraiment
c'est quelque chose qu'on voit dans pas mal de sujets, comme par exemple le manga, le comics. Dès que effectivement quelque chose devient mainstream, il y a un rejet, quelque chose de « attends, j'étais là avant, on me vole mon identité », effectivement. Donc il y a toujours une sorte de protectionnisme, de chauvinisme presque de sa passion, et très vite, en quelques années, mais bon voilà, ça fait 20 ans qu'on existe, donc
oui, non, on a un recul, bien installé là,
on a un recul sur le Seigneur des Anneaux. Non maintenant on voit, puis surtout comme je disais, en 20 ans, donc il y a une génération voire deux qui sont passées, on commence à avoir des une passation entre guillemets de flambeau, alors en le gardant, mais une transmission, pardon, voilà, il y a une nouvelle génération et qui est vue avec bienveillance. Alors il y aura toujours des fanatiques, des grognons qui font gnu, même sur la première trilogie de Peter Jackson, oui, ils ont pas mis Tom Bombadil, oui, bah c'est pas grave.
Ah oui, moi j'avais grogné
parce que moi j'en ai clairement Tom Bombadil, je vais le dire avec un mot un petit peu plus grossier, c'est un peu chiant.
De quoi, Tom Bombadil? Mais vous rigolez, c'est le meilleur passage du roman. Des chansons, de la créativité, de la joie dans un univers où tout le monde fait la gueule. Moi, je militais pour Tom Bombadil. C'était moi qui avais lancé la pétition.
Je comprends. Je comprends. Il a expliqué. Hein, Peter Jackson disait que c'était trop.
Ça rajoutait encore.
Surtout sur un début qui. qui est assez long
comme,
aussi.
C'est comme un gâteau, tu mets du chocolat, si tu rajoutes de la chantilly, du caramel, au bout d'un moment ça devient indigeste. Faut des fois couper et des trucs pour que ce soit plus accessible et sans dénaturer bien sûr l'œuvre.
Et niveau transmission, tu vois arriver les enfants des fans.
Oui, complètement.
Et comment comment eux ils transmettent ça? Est-ce qu'ils sont très chapelles en leur disant bon, écoute, va pas là-dessus, c'est pas. Je te dis va pas là-dessus, mais est-ce qu'ils laissent leur.
La nouvelle génération va être beaucoup plus ouverte. Que leurs aînés, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils ont baigné bien souvent dedans dès le plus jeune âge. Mais ils vont, on va dire, faire une sorte de protectionnisme, et c'est plus à la rigolade, à la dérision. Mais ils vont être beaucoup plus ouverts à d'autres œuvres de fantasy ou d'univers. Je le retrouve dans le comics, je le retrouve dans le manga. C'est-à-dire que dans les années 90, il y avait les fans de manga, les fans de comics, ça se mélangeait pas. Et au fur et à mesure, je vais essayer ça. Et ça se mélange. Et dans le milieu du là où on est.
Ils sont en forme.
Ah, ils sont en forme. Dans le milieu du jeu de rôle, c'est encore plus flagrant depuis ces dernières années, d'autres œuvres culturelles qui ont développé le Donjon et Dragon et tout ça. C'est devenu encore plus mainstream, mais justement, le milieu des rôlistes, et notamment fans de Tolkien, parce que beaucoup de fans de Tolkien étaient rôlistes, accueillent ça avec vraiment. Ils acceptent l'arrivée de 209. Et autre même du côté générationnel, il y a aussi le côté genre. C'est-à-dire que c'était un milieu qui était très masculin il y a encore quelques dizaines d'années.
J'allais y venir, ça, oui.
Et on voit beaucoup plus de filles, de femmes qui viennent s'intéresser à la fantasy. Alors qu'avant, c'était un truc, oula, c'est quoi ce truc de mec dans leur coin chelou.
Peut-être qu'aussi les mecs. Repoussait aussi un peu les deux. Il y avait un peu des deux, quoi.
Il y avait des deux.
C'est pas pour moi et d'autres qui.
Il y a le côté protectionnisme. Bon, c'est une fille, qu'est-ce qu'elle vient, c'est pas ça. Son truc. Et l'autre côté, je me mets à la place de femmes ou de filles qui débarquent et qui voient un groupe de 10 mecs chelous dans leur cave en train de faire des jeux de rôle.
Très engageant.
Même s'ils sont de bonne foi, hein, mais on ne sait jamais. Maintenant, puis ça, c'est aussi grâce à un autre média qui a beaucoup aidé, c'est les MMO RPG.
Ces grands jeux en ligne
qui ont beaucoup popularisé.
Ont créé un monde.
Exactement.
Okay.
Notamment sur ça.
On voudrait poser une dernière question, parce que c'est vrai que c'est très intéressant d'en parler avec toi de cette fantasy, justement, parce que là on a un autre côté qui est intéressant. On avait des cosplayers tout à l'heure, là on a quelqu'un qui vend ces univers là et qui enrichit également ces univers là, parce que t'étais le fournisseur officiel de fantasy et de pop culture. Parmi tout le monde. La dernière question que je voulais te poser, vraiment centrée sur le Seigneur des Anneaux, c'est qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre à ton avis? Parce que c'est vrai que les ayants droit de Tolkien, ils essaient de gratter un peu tous les brouillons et les bouts de nappe qu'il a pu faire. C'est vrai qu'on peut se poser des questions.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait.
Qu'est-ce qui te ferait envie, quoi, en gros?
Qu'est-ce qui ferait envie? Bonne question. Alors. Il y a des choses qui ont été développées, notamment de manière vidéoludique. J'avais un petit souci.
C'était la censure chinoise. Tu as dû un truc qui a déjà dérangé.
Mince. Il y a eu des œuvres qui ont essayé d'explorer des univers de Tolkien qui n'ont pas été très développés, on va dire, de manière mainstream. Comme tu disais tout à l'heure, l'univers est tellement vaste.
Le Silmarion ou les contes et légendes inachevées, il y avait vraiment des trucs à faire. Tom Bombadil. Il y avait vraiment matière littéraire à adapter les choses. Le vrai problème de cette série, c'est qu'elle est dans l'incapacité justement d'adapter, puisqu'ils ont un problème de droit.
Oui.
En fait, ils n'ont pas la totalité de la saga littéraire en droit. Ils n'ont que des segments. Enfin, ils n'ont que le droit Seigneur des Anneaux. Donc, par exemple, Silmarion, ils ne pouvaient pas y faire référence. Donc du coup ils sont le cul entre quatre chaises.
C'est ça.
J'ai une transition toute faite, les amis, on va te remercier très chaudement, Gaël, d'être venu autour de la table, parce que c'est vrai que pourquoi on parle de cinéma, de pop culture, c'est souvent parce qu'il y a des très bons magasins pour le faire, et sur Orléans il y en a des très bons, dont le Miskatonic, on rappelle donc l'adresse, le 13 rue de la Belle Clé, je m'en rappelle plus.
Des trois clés.
Oui, mais c'est vrai. Un très très grand merci, et puis à bientôt tout cas pour des nouveaux projets.
Encore
moi j'ai une transition toute faite, on a parlé de Silmarion. Le Silmarion, c'est super, on peut dire que c'est Super Marion. Donc on va écouter la chanson de Super Mario avec Boozer, et on se retrouve juste après avec un nouvel invité. Oui, c'était un peu galère comme transition.
Merci beaucoup.
t'es trop cool. Et à notre mariage, y'aura foule. Peach, écoute-moi, deviens ma reine et je serai ton roi. Peach, 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 Peachounette, Peach, 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 Peachounette, je t'adore. Mario, Luigi, Donkey Kong à son tour. Un millier de soldats coupent un peu rien contre mon amour. Princesse Peach, un jour sois-en certaine, tu seras mienne. Ow! Peach, 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 Peachounette, Peach, 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 Peachounette, tu me la fous. Oh, oh, Peach, Peach. L'amour perce les carapaces les plus dures.
Allez, c'est parti. On est de retour au Festival Génération Multivers. On est à Saint-Nihan-Val dans la salle Pierre Lançon. Et les amis, tout à l'heure, on vous avait annoncé un thème. On est très 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 content d'en parler avec notre invité. Et Juliette, je vais te laisser le présenter parce que vraiment, pour le coup, on vous voulait parler de doublage et ce multivers du doublage. Et on va remercier très très chaudement notre invité autour de la table là, ici.
Ah oui, moi je suis très très contente d'accueillir la voix française d'Harry Potter. C'est quand même super.
Bonjour.
Bonjour. Kélan Blanc. Et tu ne fais pas que Harry Potter, hein.
Non. C'est une toute petite partie de tout ce que j'ai fait, mais effectivement, ça risque d'être compliqué de faire mieux que Harry Potter. Je crois que c'est le rôle de ma vie, hein, et donc forcément, c'est pour celui-là que je suis reconnu le plus. Mais le métier, le doublage, c'est un métier, et donc si on compte, c'est même pas 1% de tout ce que j'ai fait Harry Potter.
Et c'est justement évidemment le point de départ, mais on voulait vraiment parler de doublage en ta compagnie parce que c'est vrai que c'est un univers important. On en parlait tout à l'heure avec un cosplayer de Ghostbusters, de la VF et de la VO. Et c'est vrai qu'il y a des films parfois en VF qu'on redécouvre, on dit mais j'aurais du mal à retourner en version originale parce
Bien
que
sûr.
Les comédiens ont fait un travail absolument fantastique. Et c'est vrai que c'est le premier point de départ sur lequel je voulais te lancer, c'est parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir là pendant le salon qui disent mais j'ai peut-être jamais vu le film en VO ou la saga et j'ai peut-être pas envie de le voir parce que j'ai grandi avec cette voix là.
C'est vrai, et Harry Potter fait partie de ce type de film que tout le monde a vu en VF en fait, parce que ça se regarde en famille, ça se regarde avec des jeunes enfants, donc les sous-titres c'est compliqué. Donc Harry Potter fait partie de ces films que tout le monde a vu en VF. Et donc on me dit souvent que j'ai grandi, que j'ai grandi avec toi, avec ta voix. On me dit des phrases comme ça, et ça fait extrêmement plaisir.
Bah oui, en plus toi tu as grandi avec.
Et j'ai grandi
Harry,
avec moi-même déjà.
T'as commencé à 12 ans, je crois.
C'est
ça, premier
assez
film,
compliqué.
Quoi,
hein, c'est... De grandir avec soi-même, c'est ça. J'ai grandi avec ma propre voix, ce qui est très compliqué.
Mais
oui, j'ai commencé à 12 ans.
Finalement, t'as suivi Daniel Radcliffe en fait.
Et je l'ai suivi. Oui, on a en fait, ils ont fait exprès aussi de choisir voilà un comédien moi qui avait à peu près le même âge que Daniel Radcliffe pour qu'on puisse se suivre. Ils avaient derrière la tête bien l'idée d'aller jusqu'au bout dès
ouais,
le départ.
Et puis ça doit pas être facile comme choix parce que 12 ans, t'aurais pu vouloir faire d'autres choses.
Alors oui, c'est vrai, mais c'est une passion pour moi, la comédie, le théâtre, d'être comédien, voilà, c'est une grande, grande passion. Mes parents ont toujours mis un point d'honneur quand il y avait des projets qui se présentaient quand j'étais enfant, de me demander est-ce que j'ai envie de le faire. Bon, la réponse était toujours oui, clairement. Mais il me demandait. Et donc j'ai toujours dit oui, et c'est comme ça que j'ai commencé et que je n'ai plus jamais arrêté.
Alors j'ai une question que je rêve de poser à des comédiens. Alors, on va parler de tes autres casquettes, évidemment. Mais pour ce qui est du doublage, du comédien de doublage, on trouvait qu'en France, on se posait parfois la question, parce que ça fait plusieurs fois qu'on tourne autour du thème dans nos divers de pop culture, dans l'émission. Comment on double ? On double comédien ou on double personnage ? Comment ça fonctionne ?
On double personnage. Voilà. On double personnage et on essaie d'être au plus près de ce qu'a fait le comédien pour le personnage. Déjà, un comédien de base, il joue pour le personnage qu'il incarne. Et nous, on joue pour le personnage que le comédien incarne. Alors, c'est là où on parle de multivers, on a fond dedans. Là.
Ah, le doublage, c'est le métier du multivers, de toute
oui,
façon.
Oui, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai tendance à dire souvent que le doublage, en fait, c'est ce qui est le plus compliqué. Parce que c'est jouer la comédie avec la respiration et le timing de quelqu'un d'autre. On ne peut pas nous-mêmes choisir de faire quelque chose. On doit respecter ce qu'a fait le comédien original. Et c'est pour ça que pour faire du doublage, il faut être comédien, il faut faire du théâtre.
Alors, respectez, mais des fois, vous l'améliorez. Parce que moi, j'ai déjà vu des films de Steven Seagal. Excusez-moi.
On a vraiment passé à Steven Seagal là.
Oui, quand j'étais jeune. C'est, et c'est un peu là, la VF, on y gagne. Enfin, on a l'impression qu'il y a du jeu d'acteur. Quoi.
Tu veux doubler Steven Seagal,
c'est quand même. Alors, je n'ai pas forcément la tessiture, on va dire, pour doubler Steven Seagal. Non, mais en règle générale, quand même, on est un petit peu en dessous et c'est logique. De la version originale, parce que ça fait des mois qu'ils préparent le rôle. Nous, un film, un rôle principal d'un film, ça, on met un jour et demi à le doubler, et donc forcément on a moins de temps de se mettre dedans. On essaie d'être au plus proche au maximum, mais en règle générale, effectivement, c'est toujours mieux la VO. Mais par contre, la France est champion du monde dans le doublage, et on est très 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 fort. Et c'est là qu'on voit dans les dessins animés, les doublages français des dessins animés sont les meilleurs du monde.
Et c'est vrai que c'est une vraie chance, parce que souvent on lit en France, si on parle pas bien anglais, c'est parce qu'il y a beaucoup de doublages.
Non, c'est l'inverse.
On a la chance d'avoir deux films, en tout cas pour le prix d'un, souvent, parce qu'on découvre le film en VO et on a des très bonnes interprétations en VF, c'est un vrai plaisir.
Mais c'est totalement l'inverse. Hein. C'est parce qu'on parle pas beaucoup anglais qu'on a beaucoup de VF.
Oui.
Clairement dans ce sens-là. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont besoin de cette VF pour apprécier les films, parce que il y a des films comme ça avec énormément d'images, de belles images et tout. Si on passe son temps à lire les sous-titres parce qu'on parle pas du tout anglais, on perd beaucoup du film. Alors que si on le met en VF, et ben là, on se laisse transporter.
Moi, j'avais des questions techniques de coulisses pour le coup, parce que je pense, moi, ça me fascine de savoir comment ça fonctionne réellement. Et ouais, est-ce que, alors, je vais faire le béotien, est-ce que le film, tu le vois par séquence? Est-ce qu'il est dans l'ordre? Est-ce qu'il n'y a pas de... Il y a ça qui fascine aussi, de se dire que le comédien de doublage, il va dire « j'ai vu le film avant les autres ».
Alors,
fondamentalement, oui. Mais
oui, mais le film, déjà, on le double dans le désordre, en fonction des comédiens qui sont là.
Oui.
Puis les images...
Il y a des envois de séquences.
C'est ça, et on voit la scène pour 30 secondes avant de la faire. On voit juste, c'est ce qu'on appelle des boucles, ça dure à peu près une minute. Ouais. Et donc le film est coupé en boucles et on voit une boucle avant de la faire, juste 30 secondes avant. On la regarde une fois, deux fois et hop, on se lance, on double, on passe à la boucle d'après. Et on regarde, la boucle, ok, et en fait on n'a aucune idée de ce qu'on fait.
Et finalement, il te faut des indications de jeu.
Évidemment, et il y a un métier pour ça, qui est le directeur artistique. Et c'est cette personne-là qui nous donne les indications qu'elle... Cette personne a une vue plus globale du film. Elle a déjà vu le film en amont et elle sait où on va. Elle a des indications aussi de la prod, du client, qui sont plus précis que nous ce qu'on a et qui nous guident et qui nous dit là, tu vois, il est un peu plus triste. Là, il est un peu trop loin. Il faut que tu parles un peu plus fort parce que là, la personne, elle est pas à 3 mètres, elle est à 10. Et donc, elle nous donne des indications comme ça pour améliorer au maximum le jeu.
Est-ce qu'il y a une question?
Oui, je voudrais rebondir sur le temps d'enregistrement, un jour et demi, ça me paraît très court.
Oui, c'est très court. C'est très court. Mais le dernier film où j'ai fait un rôle principal dedans, qui est Escape from Pretoria. Donc c'est le rôle principal du film et je l'ai vraiment doublé en un jour et demi. C'est-à-dire que j'ai fait un 9h30, 18h et le lendemain 9h30, 13h et puis voilà. C'était fini.
Et il y a des répétitions?
Il n'y a rien du tout, comme je disais. Ouais. On voit vraiment la scène, la boucle, 30 secondes avant de la faire. Donc on a aucune idée de où on va, de ce qui est après. Et on ne fait pas forcément dans l'ordre en fonction des comédiens qui sont là présents sur le plateau ce jour-là. Donc non, c'est pour ça que je dis que le doublage est un des métiers les plus compliqués dans la comédie.
Alors on est promis de parler de tes autres casquettes, évidemment, parce que moi ce qui m'est marqué souvent, c'est que quand on a des comédiens, donc on connaît la voix parce qu'ils ont doublé, qu'on les voit dans des rôles au théâtre ou ailleurs, souvent leur voix les précède dans leur charisme, je dirais, en quelque sorte. C'est très troublant parfois, même dans les vieux films des années 70 jusqu'à aujourd'hui, de dire mais lui il a doublé et je le vois là maintenant, ça apporte une forme de charisme, je dirais. Est-ce que ça peut jouer dans des autres rôle, justement.
Bien sûr, alors évidemment Harry Potter, ça m'a joué des tours.
Excellent,
on la garde celle-là.
Parce qu'il y a des projets que j'ai pas pu faire parce que au dernier moment ils se sont dit non mais on peut pas mettre la voix d'Harry Potter. Donc d'accord. Effectivement ça m'a joué des tours sur certains trucs. Mais après c'est comme être comédien même devant la caméra. beaucoup de comédiens, ils font plusieurs rôles et on les retrouve et ça nous gêne pas tant que ça finalement de les retrouver dans des rôles complètement différents. Et pour nous c'est pareil au fait, on est capable d'avoir plusieurs casquettes, de jouer 1000 rôles différents et donc on est capable voilà de se transformer et de changer le ton, la manière de parler et même si c'est la même voix finalement, ça peut être sur un personnage qui est complètement différent. C'est comme la comédie. C'est certains acteurs font plusieurs rôles et ben nous on fait pareil.
Juliette.
Alors déjà on en a parlé tout à l'heure, mais tu disais justement que ta voix, enfin je t'ai fait remarquer que ta voix c'était pas vraiment celle d'Harry Potter quand on t'entendait parler comme ça, parce que t'es quelqu'un de très souriant et tout ça, et tu expliquais que voilà oui. C'était une technique, lui il était plutôt déprimé, du coup c'est vrai que ça modifie ta voix,
c'est
donc
ça.
C'est ça qui est super intéressant et c'est ça qui fait que tu peux faire d'autres rôles
bien
finalement.
Sûr, et c'est tout le travail du comédien justement de se mettre dans la peau du personnage et comme je dis, Harry Potter oui c'est pas du tout moi, je suis ultra joyeux, j'ai le sourire tout le temps, et lui il a été maltraité, il est dépressif, il faut qu'il sauve le monde, il faut même un moment qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils meurent pour sauver le monde, donc
grosse
c'est pas spoil. Super gay quoi.
C'est vrai qu'il y a une grosse pression sur les épaules quand même quoi.
Voilà, et donc forcément il parle pas comme moi forcément voilà, et donc c'est pour ça qu'on ne parle pas pareil et que la voix est un petit peu différente, mais quand on m'entend parler tous les jours on reconnaît des expressions, des voilà. manières de parler qui sont toujours présentes évidemment,
des intonations
qui restent, mais le personnage est différent donc il ne parle pas comme moi. Et c'est pour ça que ça varie.
Alors aujourd'hui, il y a des rôles, il y a du film, il y a du théâtre. On oui. peut parler de quelle actu justement pour tes prochains projets?
Je suis au théâtre. Alors, enfin, là, j'ai dû dire en ce moment, mais non, c'était la dernière date là, il y a pas si longtemps.
Ben, c'est fini.
Donc cet été, je reviens normalement sur scène un petit peu. Alors le gros souci, c'est que nous, maintenant, on a des clauses de confidentialité.
D'accord.
Pour tous les projets à venir qui arrivent.
Il suffit de le dire tout bas.
Donc,
il n'y a personne qui nous écoute.
Il y a une série sur Netflix qui s'appelle Mulligan.
Oui, Mulligan, bien sûr.
Qui vient de sortir. Qui vient de sortir, du coup, où j'ai participé. Je fais King Jeremy dedans. Donc là, je peux en parler parce que c'est sorti, ça y est.
Mais on peut la recommander, c'est une série vraiment fabuleuse.
Ah oui, bah c'est ceux qui aiment Futurama, c'est un peu le même délire. Hein. Ça n'a aucun sens. Et donc voilà, donc ça je peux en parler, mais tous les projets qui vont venir, bah, je n'ai pas le droit d'en parler malheureusement.
D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères doubler, des films ou des animes ou autre, parce que qu'est-ce qui te permet le plus de liberté finalement?
J'adore tout en fait.
D'accord.
En fait, ce qui est génial dans ce métier, c'est justement qu'on peut passer des fois le matin, on fait une tragédie et l'après-midi, on passe sur un dessin animé comique. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on passe du coq à l'âne comme ça en changeant complètement de personnage, des fois d'une heure sur l'autre. Et c'est ce qui est vraiment génial dans ce métier de doublage, c'est que ça nous permet une variété de jeux incroyables, et même dans une même journée. Ce qui est fou, c'est on a une chance incroyable.
Alors il va nous rester deux questions parce qu'on voudrait vraiment pas prendre du temps à tous les gens qui veulent te rencontrer, c'est normal, c'est vraiment nous en tout cas le même plaisir partagé que pour toutes ces personnes qui viennent à Saint-Denis-en-Val. Nicolas, tu avais une question également pour votre invité.
Oui, j'avais une petite question. Est-ce que vu ces contraintes techniques de doublage extrêmement rapide, ce que tu racontais, est-ce que parfois en voyant le film, tu te dis ah merde, si j'avais eu l'ordre peut-être des séquences, je l'aurais joué différemment, ou je l'avais pas compris comme ça, ou avec cette intensité-là, cette émotion-là. Alors bien sûr que l'histoire, tu la comprends parce que tu l'as dans le désordre, mais est-ce que, oups, je l'aurais pas joué comme ça, c'était déjà arrivé.
Oui, bien sûr que ça m'est arrivé, et c'est pour ça que je regarde très peu ce que je double. C'est parce que, en fait, je pense que c'est propre à chacun, en fait, on se juge forcément quand on s'écoute, et on a fait, ah, je l'ai fait comme ça, j'aurais peut-être mieux fait de la faire différemment, et en fait, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a fait. On est très perfectionniste dans ce milieu, et donc on ne sera jamais nous-mêmes satisfait. C'est pour ça qu'il y a certains directeurs artistiques qui nous disent, non, mais c'est bon. Non, on passe à la scène suivante, c'est bon, pour moi tout va bien. Ah, mais j'aimerais bien, non, on n'a pas le temps déjà. Donc on enchaîne, mais on n'est jamais satisfait. Donc oui, forcément, on se dit, j'aurais bien aimé la refaire.
Et c'est vrai que c'est bientôt le mot de la fin, en tout cas, un immense merci pour être passé, parce que c'est vrai que malgré le monde qui est là, nous on est très très heureux.
Merci à vous, on a trouvé un créneau, c'est fou ça.
C'est génial, on a trouvé un créneau, ça me rappelle quand je passais le permis, cette vanne est consternante d'ailleurs. C'est le genre de truc qui saute au montage en général.
Bien,
j'aime bien tester le direct en faisant.
Regarde Mulligan, du coup. Regarde Mulligan, tu vois, c'est à peu près le même délire.
C'est ça. Justement, on en parlait, donc je peux y aller. Alors, Juliette, je vais te passer le micro pour le mot de la fin. En tout cas, un très très grand merci. Tu vas attendre, tu vas perdre 3 vertèbres parce que le fil est court.
Oui, tu veux que je me colle à toi, en fait. Bah, est-ce que tu pourrais nous faire un dernier petit kiff en disant à tous les moldus d'écouter Graffiti Cinéma?
Mais bien sûr. À tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma.
Merci, c'était génial. C'est merci,
avec
super,
plaisir.
C'est magique.
C'est magique. Et bah oui, ça marche aussi, bien joué.
C'est superbe. Un immense plaisir, en tout cas, de vous avoir rencontré. C'est le plaisir qu'on souhaite à toutes les personnes de venir à Saint-Denis-en-Val, à Génération Multivers, pour le faire et continuer à découvrir ces univers-là et tous tes futurs projets, les secrets comme les autres. On sera toujours là avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Avec alors, grand
on
plaisir.
Va écouter,
on lancera un petit sort en Doloris pour
c'est ça.
Voir si ça marche. Quoi.
Demain, on a un quiz pour toi si tu veux passer à Harry Potter ou chez Ikea. Voilà.
Quiz à Harry Potter, très bien.
Ou meuble Ikea. Sort d'Harry Potter ou meuble Ikea.
Très bien. Ça, si. Ça me fait marrer. Mais le truc, est-ce que je vais avoir le temps? J'espère. Pas sûr.
On le trouvera. Nous, on le trouvera. On sera planqué dans un coin. Encore un immense merci. Puis on va écouter justement un extrait justement de ce thème du multivers, du doublage. Une scène bruitée à la bouche dans l'univers des nuls. On est dans le thème 2. Et c'est vrai que dans cet univers-là, on cherchait des sons quand on parlait de doublage. Et c'est vrai que cette scène-là, le deuxième son, va être très très bien pour finir cette séquence super sympa. Là, donc bah, du coup c'est le... On va tester, c'est les joies du direct, on va tester un petit thème 2. Dans le thème 2 je pense que c'était scène bruitée, quelque chose comme ça, sinon on va continuer à meubler, c'est pas très grave. Et que quelqu'un veut chanter une chanson, moi je suis plutôt fan de Sa Raison d'Être. On est arrivé, on m'en laisse. Enfin, on est en direct, on fait ça, c'est une honte.
C'est ça, les gens vont nous perdre là. Les gens qui nous écoutent vont complètement nous perdre.
Oui, on en a perdu en route d'ailleurs.
On en a perdu en route.
Bon, c'est pas grave. On va peut-être remettre un petit son de Figaro, puisque c'était l'extrait de Madame Doubtfire tout à l'heure qu'on avait eu avec plaisir.
Figaro, 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 son qua, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto prontissimo, sono come il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Abravo Figaro, bravo bravissimo, abravo Figaro, bravo bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città.
Salut, petite friandise.
Glurp! Je dirais même plus...
Glurp!
Appelez les urgences, je lance un SOS à la police, au SAMU, au Vatican, à Mère Teresa, à la SPA, c'est un meurtrier, un assassin! Aidez-moi, au secours, on me kidnappe!
Une petite fricassée de perruche, je vais me régaler. Il est grand temps de faire ta prière.
Excusez-moi, mais la coutume ne vaut-elle pas que les prisonniers...
Alors le multivers du doublage, c'était vraiment un thème qui nous tenait très 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 à cœur, et vous avez compris que c'était la surprise qu'on vous teasait. Alors j'ai essayé de la teaser pendant toute l'après-midi sur cette séquence de direct. Juliette m'avait un petit peu tué le game en le mettant sur la page Facebook de l'émission. Mais en tout cas, c'était une très très belle rencontre, et vous voyez que tous les invités qui viennent autour de la table, comédiens, cosplayers, voilà, gérants, enfin, tout ce que vous voulez, c'est une même passion qui anime tous ces gens-là. Et on va maintenant remercier, en tout cas, parce qu'il vient à la fin de cette tranche de direct, de remercier tous les gens qui ont rendu ça possible. Et là, je vais faire un peu mon monsieur loyal. On va remercier très chaudement l'ami Stéphane qui est avec nous avec sa table de mixage.
On dit merci Stéphane.
Merci Stéphane.
C'est
très bien, merci Stéphane.
Il a fait tout le temps, il s'en lasse pas de cette blague. Les amis, on est en tout cas autour de la table avec une grande partie de la troupe de Graffiti cette saison. Donc Nicolas, nos deux Nicolas, les amis, et on n'arrive pas à les différencier. Ils ont tous les deux une coupe de cheveux atypique, pour pas dire plus. Des casquettes bizarres, des t-shirts qu'on récupère dans les boîtes à livres parce que les gens savent pas où les mettre. Et ils aiment tous les deux les comics. On n'arrive pas à les différencier, c'est une galère totale. Mais en tout cas, on est très content de vous avoir eu encore une fois cette saison. Parce que pourquoi je parle comme ça? Parce que c'est le dernier enregistrement de la saison, les amis. Pendant la grille d'été, on vous enverra évidemment les meilleures émissions qu'on a pu faire cette saison, sachant qu'elles sont toutes meilleures. Donc on a un petit peu de galère pour les choisir.
La dernière est toujours la meilleure, évidemment.
Non, mais puis celles où je suis, elles sont meilleures.
Ah oui, c'est vrai.
Ah ouais, vous kiffez de fou là.
Ouais,
vous aimez bien quoi.
Nous on s'envoie des fleurs.
Kiffe,
voilà. Ouais, ça fait un salut à tous ceux qui n'étaient pas autour de la table déjà, avant de finir également avec ceux qui étaient. Donc il y a Geoffrey qui a participé beaucoup d'émissions, Mathieu également qui a pas pu faire autant de chroniques, pas tout à fait dans le thème cette saison que la précédente, mais qui nous envoie toujours des conseils, qui nous engueule quand il écoute les podcasts 3 mois après. On va remercier Milan également qui est souvent avec nous autour de la table, nos enfants et nos familles.
Et nos familles qui supportent quand on...
Et évidemment, Juliette, autour de la table, un immense merci également pour avoir osé demander ses dédicaces à Kylian Blanc. Parce que moi, j'étais pas prêt à lui demander la dédicace.
Pourquoi ? Non, il est adorable. Mais adorable. Il est vraiment une super rencontre.
Franchement, il me fait peur. Thomas, aussi officiel de Big Paxton, depuis ce matin, avec cette taille de barbe complètement improbable. Et puis évidemment, je voudrais avoir un mot, parce que c'est la fin du direct, évidemment on est sur Vague, mais on a deux diffuseurs qui nous ont suivis, MCS en Belgique évidemment, Radio Paca à Châteauroux, et puis les amis également de News Orléans Web Radio, hein, de Bernard Bourret, qui nous suivent également dans la foulée de Radio Vague.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Pourquoi vous faites ça,
hein?